Systems accessed.
Ceci est un jungle de salle de bain.
Activate.
Vous êtes bien sur la locale 97.3 à Saint-Girons.
Activate.
Voisine
fait
bêtise.
Non.
Mais est-ce que ta voisine écoute la radio?
C'est jamais mon voisin qui ferme les volets, c'est toujours ma voisine.
Vous êtes bien sur la locale 97.3 et vous écoutez ta radio est féministe. Non, pas encore.
Et qu'on ferait changer les choses. Allez, on ose, il est grand temps.
Tu t'apprêtes à écouter ta...
Salut, c'est ta voisine et féministe 97.3 à Saint-Girons. Alors ce soir, on va vous proposer l'écoute de deux interviews. Donc c'est suite à l'enquête publiée par Mediapart le 4 novembre où Adèle Haenel dénonce des attouchements et le harcèlement sexuel qu'elle a subi. Et où une trentaine de témoignages viennent corroborer sa version. Donc suite à cette enquête, il y a une interview également d'Adèle Haenel qui a été faite par Mediapart et qu'on a pu voir sur Internet. Donc c'est elle qu'on vous propose d'écouter. Elle s'appelle « #MeToo dans le cinéma, Adèle Haenel brise un nouveau tabou ». Et cette interview sera suivie... d'une deuxième interview d'une universitaire qui s'appelle Iris Bray et qui là dénonce les violences sexuelles dans le cinéma en général. Juste avant de lancer ça, je voulais juste redire qu'un des trucs qui l'a inspiré, c'est le mouvement hashtag MeToo. Et elle dit dans son témoignage, vous l'entendrez, qu'elle a réussi à parler, notamment parce que d'autres l'ont fait avant, et aussi qu'elle le fait pour que d'autres puissent le faire après elle. Donc voilà, elle est vraiment dans la continuité de ce hashtag MeToo, avec l'idée que c'est important de parler des violences qu'on a subies pour que d'autres le fassent après nous. Et je voulais rappeler... aussi, avant de lancer l'interview, que les violences sexuelles et les violences systémiques, elles ne touchent pas que les femmes. Et donc dire que depuis peu, il existe aussi un mouvement hashtag MeTooTrans qui a été initié le 10 novembre. Par une internaute qui a écrit face aux agressions transphobes, individuelles ou collectives, personnelles ou étatiques, qui se multiplient, je vous invite à partager vos expériences de transmisogynie et de transphobie sous le hashtag MeTooTrans. Et elle ajoute, calqué sur le modèle de dénonciation qu'était le hashtag MeToo, ce hashtag a pour but de libérer la parole des agressions que nous, personnes trans, vivons dans un système toujours plus enclin et favorable à notre discrimination et à nos agressions. Et donc ce hashtag, elle l'a lancé après avoir été contactée par plusieurs personnes qui elles-mêmes avaient été interpellées par un article qui est paru dans TV5 Monde et qui s'appelait « À quand un hashtag MeToo ?» des femmes transgenres. Et voilà, et elle dit qu'après, ça a permis que des gens osent parler de choses dont ils n'avaient jamais parlé. Et voilà, et du coup, je voulais repréciser que contrairement à ce titre d'article qui parle des femmes trans, et ben le hashtag MeTooTrans, lui, il concerne toutes les personnes trans et pas seulement les femmes trans. Parce que les hommes trans sont aussi touchés par ces agressions de manière systémique. Et du coup, voilà, ce hashtag, il fonctionne plutôt bien, je crois. Je ne suis pas connectée, mais c'est ce qu'on en dit sur les médias. Et donc, il y a des témoignages qui font état d'agressions physiques et sexuelles, de remarques transphobes et de cas de mégenrage, c'est-à-dire de pas appeler la personne par le pronom qui lui correspond. Voilà, et ben, bonne écoute.
Bienvenue à Mediapart, bienvenue à ce Mediapart live exceptionnel sur les violences sexuelles au cinéma, un Mediapart spécial MeToo. Je suis vraiment en colère, mais la question ce n'est pas tant moi, comment je survis ou pas à cela. Je veux raconter un abus malheureusement banal et dénoncer le système de silence et de complicité qui, derrière, rend cela possible. Car le silence joue toujours en faveur des coupables. Ce sont les mots d'Adèle Haenel, de l'actrice Adèle Haenel, confiée à ma consoeur Marine Turki dans une enquête remarquable de longueur, d'ampleur, de détail, de précision, de rigueur que nous avons mis en ligne il y a 24 heures sur Mediapart. Adèle Haenel, qui a 30 ans, qui a eu 2 Césars au cinéma, qui est de meilleure actrice en 2014-2015, qui est actuellement, vous pouvez la voir sur les écrans dans le film Portrait de la jeune fille en feu, qui est donc une actrice très renommée, très reconnue, y confie, mais l'enquête de Marine Turki va au-delà de son témoignage, montre tout simplement qu'elle dit vrai, y confie les faits d'attouchement, d'harcèlement sexuel qu'elle a subi alors qu'elle avait entre 12 et 15 ans de la part d'un réalisateur de cinéma, celui de son premier film, Les Diables, Christophe Ruggia. Ce réalisateur, cet homme, avait entre 36 et 39 ans. Adèle Haenel, bonsoir.
Bonsoir.
Ma première question est toute simple. Pourquoi avoir spontanément, car on va le voir, vous allez le raconter, toutes les deux, votre rencontre, Marine et vous, en avril dernier. Pourquoi avoir finalement décidé de parler sur ces faits qui se sont déroulés entre 2001 et 2004, il y a donc de cela une quinzaine d'années ?
Y a plusieurs raisons, en fait. Depuis que les faits se sont produits, c'est toujours quelque chose que j'ai gardé en moi, en fait. C'est-à-dire que j'en ai pas forcément parlé, voire j'en ai très peu parlé, et j'ai essayé de faire mon propre chemin avec ça. Et disons que au début de cette année, j'ai vu un documentaire qui est sur Michael Jackson, qui s'appelle Living Neverland, et qui m'a fait changer de perspective sur en fait ce que j'avais vécu, parce que j'ai compris que qu'il ne s'agissait pas qu'une histoire privée, en fait, mais que c'était une histoire publique et que peut-être que j'avais adhéré à la version de Christophe Ruggia et qui qualifiait cette histoire d'histoire d'amour, même si moi, je n'y avais jamais vraiment cru intimement, je veux dire, mais c'est quelque chose qu'il m'avait raconté et que, du coup, je m'étais dit, c'est différent. Et quand j'ai vu le film « Living Neverland », je n'ai pas pu m'empêcher de voir des mécanismes d'emprise et de fascination qui ont été complètement à l'œuvre aussi dans mon histoire. Et en fait, ça m'a fait du bien de voir ce récit. Et du coup, j'étais très agitée par ce documentaire. Et je me suis renseignée sur lui, quoi, pour prendre des nouvelles sur Internet. Et j'ai vu qu'il ressortait un film, qu'il était en projet d'un nouveau film qui s'appelle « L'émergence des papillons ». Et que le film parlait de deux adolescents, déjà.
Comme les diables.
Oui, plus âgés, en fait. Mais, et que les deux, pas les noms des acteurs, enfin, pas des acteurs, mais des personnages, c'était Joseph et Chloé, qui sont les deux personnages qu'on joue, Vincent Rottier et moi, dans « Les Diables ». Et je trouvais que c'était vraiment abusé, en fait. Que c'était vraiment un dernier pied de nez pour faire comme si ça ne s'était pas passé. Je veux dire, ça peut sembler être un détail, mais si ça ne l'est pas, en fait, c'était juste hyper humiliant. Et surtout, ça me mettait encore plus en colère. Et ce que je dois dire aussi, c'est que je me suis dit, mais il ne peut pas refaire un film avec des adolescents, en fait. Je veux dire, je ne peux pas laisser faire ça, aujourd'hui. Du coup, c'était un peu, voilà comment ça s'est passé dernièrement. Mais après, c'est un processus très long, parce que ça va de juste essayer de commencer par survivre. Après, avoir une colère qui passe peut-être un peu dans, qui part un peu dans tous les sens, y compris contre soi-même. Ensuite, commencer à ouvrir des conversations avec des gens qui nous croient, qui considèrent que l'affaire est un problème, en fait. Et de se dire pour soi-même, effectivement, c'est un problème, en fait. C'est grave ce qui m'est arrivé. Et donc, voilà, donc ça, c'est un cheminement. Je veux dire, ça fait ça, 17 ans, hein, que c'est... Donc, c'est un cheminement ultra long. Là on parle de la dernière année. Et puis, il faut dire aussi que le monde a changé. Et c'est pour ça, en fait, aussi que je parle. C'est parce que, en fait, je dois le fait de pouvoir parler à toutes celles qui ont parlé avant, dans le cas des affaires MeToo, et qui m'ont fait changer de perspective sur ce que j'avais vécu. Et du coup, je voudrais contribuer à ça, renvoyer ça dans l'espace public, parce que je pense que ça peut vraiment libérer d'autres paroles. Et quand on parle de paroles, on ne parle pas juste des mots, on parle de la vie des gens, quoi. Et de proposer ces nouveaux récits, voilà. Je suis un peu brouillon, hein, je suis désolée, forcément, je suis un petit peu émue.
Vous
mais
pas du tout brouillon.
Et voilà, ça me semblait important. Et puis, c'est ce que j'ai pu dire aussi à Marine, c'est que, en fait, aujourd'hui, c'est une responsabilité pour moi. Parce que je suis en mesure de le faire, parce que, voilà, comme vous l'avez dit, je travaille suffisamment, j'ai des projets dans la vie, j'ai un confort matériel, des alliances qui font que je ne suis pas dans la même précarité que la plupart des gens à qui ça arrive. Et je voulais juste le faire, en fait, si vous voulez, c'est pour leur parler à elles et à eux, en fait. Il faut dire qu'ils ne sont pas tout seuls, quoi.
Adèle Haenel, on va revenir sur tout ça.
Ouais, pardon, je suis pardon.
Non, pas du tout, oui. On va revenir sur, compris les faits, parce que ce que vous disiez, il faut rappeler ce documentaire sur Michael Jackson, c'est des faits de on dit pédophilie, nous on préfère dire pédocriminalité. C'est des faits, non pas d'amour, mais de violence vis-à-vis des enfants. Et puis, on va revenir aussi sur, au fond, la démarche politique qui est la vôtre. Vous le dites, justement, vous vous adressez dans notre enquête, dans l'enquête de Marine Turki, aux victimes. Je veux leur dire qu'elles ont raison de se sentir mal, de penser que ce n'est pas normal, mais qu'elles ne sont pas toutes seules et qu'on peut survivre. Parler est une façon de dire qu'on survit. Mais avant de dérouler tout cela et de passer la parole à Marine, il y a eu, juste avant qu'on démarre cette émission, un communiqué de la Société des réalisateurs de films, de l'ensemble de son conseil d'administration. C'est une structure importante dans le cinéma français. Christophe Rugia lui-même en a été co-président. Et ce communiqué, non seulement exprime son soutien total à votre démarche, dit qu'il vous croit, qu'il prenne acte sans se dérober de leur propre responsabilité. Et ils annoncent qu'ils ont lancé une procédure de radiation de Christophe Rugia de la SRF. Mais je voudrais juste citer ce passage. « Comprendre et mettre à jour les mécanismes d'impunité est la grande leçon et le sens même de la démarche de la comédienne Adèle Haenel. Adèle Haenel a décidé de porter une parole politique en offrant son histoire à autopsier et investiguer. Nous saluons sa générosité et son courage. Nous nous engageons pleinement dans cette dynamique, questionner notre pouvoir, nos pratiques, sur les plateaux et comme collectif. » En lisant ce communiqué, est-ce que vous vous dites « Eh bien, non seulement j'ai bien fait, mais on a gagné quelque chose. Il y a un moment, Adèle Haenel, non pas de vous personnellement, mais de ce combat que vous avez mené là. »
Je trouve que le communiqué est vraiment très beau, en fait, parce qu'il ne s'agit pas de dire qu'il y a un... Je veux dire, pour moi, ce n'est pas l'idée de tracer le camp du mal et le camp du bien, mais c'est d'ouvrir la parole, quoi, et de prendre acte de ses propres responsabilités, de le fait qu'on est faillible. Et je trouve que le communiqué, en ça, il est très bien. Parce que chacun, parce qu'ils prennent individuellement, et ça va prendre un peu de temps, et collectivement, acte de peut-être les façons dont ils ont potentiellement soit pas compris, soit évité de comprendre, soit, enfin je sais pas, en fait chacun avec soi-même, quoi. Et donc c'est le but de l'ouverture de la parole, là, c'est pas, mon but est pas, c'est pas, en fait, comment dire, Ça a été auparavant, je peux avoir une dynamique de vengeance, mais aujourd'hui, c'est pas ça, en fait. Mon but, c'est vraiment la libération de la parole. Et je pense que c'est un bienfait dans les collectifs, dans les familles, qu'en fait, on se parle et qu'on reconnaisse nos torts, en fait. Et ça change tout. Et donc, je trouve que ce communiqué est très bien et je dois dire que je suis très touchée des messages de soutien que j'ai reçus aujourd'hui.
Alors, Marine, on va parler de l'enquête, puisque c'est une enquête qui a duré 7 mois. Au départ, et tu vas le raconter, il y a votre rencontre fortuite et ce que te dit spontanément Adèle Haenel. On ne peut pas se contenter d'un témoignage. Tu as, dans cette enquête, il y a une trentaine de personnes qui parlent, la plupart on. Tu as dit dans un texte un peu de making-of, comme on dit, que c'était une enquête singulière. Et cette enquête singulière, jusqu'au bout, on a essayé de la mener dans le respect du contradictoire, comme on dit dans notre métier. Et je dois préciser que donc Christophe Ruggia, via son avocat, après multiples relances de ta part, nous a fait savoir que ce que nous lui mettions sous les yeux, il estimait que c'était systématiquement tendancieux, inexact, romancé, parfois calomnieux. Et surtout, il disait « Je souhaite en tout cas que vos lecteurs sachent que je refute catégoriquement avoir exercé un harcèlement quelconque ou toute espèce d'attouchement sur cette jeune fille alors mineure. » Ça, c'est le point du contradictoire, mais ce qui m'importe surtout, c'est que tu racontes justement pourquoi, au final, nous sommes retrouvés avec ce que nous estimons une enquête complète qui permet de mettre ces faits au jour.
Au départ de cette enquête, effectivement, tu l'as dit, il y a le témoignage d'Adèle Haenel. On ne se connaît pas, on se rencontre au mois d'avril. Quand elle comprend que je suis journaliste à Mediapart et que je travaille notamment sur les affaires de violences sexuelles, elle donne tout de suite son témoignage sur Christophe Ruggia. On est quelques-uns, on est 4-5 à ce moment précis. On écoute et ensuite il y a deux autres femmes qui d'ailleurs à leur tour donnent leur témoignage.
Comme quelque chose qui saute. Tout
comme quelque coup. Chose oui. qui sort. Comme
ce genre de situation, en fait, on les rencontre aujourd'hui. Je veux dire, dans l'air après MeToo, moi c'était pas la première fois que j'allais à une fête où en fait quand on discute avec d'autres femmes, bah, on se rend compte que les récits de violences sexuelles vraiment émaillent la vie d'énormément de femmes.
Donc, je veux dire, c'était... Je rappelle que selon les statistiques, une femme sur cinq a été victime de violences ou prou graves ouais. sexuelles.
En tout cas, effectivement, dans ce moment-là, c'est un moment où plusieurs personnes vont donner leur témoignage, dont Adèle Haenel. Et moi, ce que je dis à ce moment-là, c'est il faut travailler, enquêter à partir de ce témoignage. Il y avait beaucoup de choses à faire et je pense que justement c'était un temps long qu'il fallait se donner, de ne pas publier tel quel ce témoignage et de travailler dessus. C'est ce que j'ai fait pendant 7 mois. J'ai pris les dates que donnait Adèle Haenel, les protagonistes, les dates, les scènes qu'elle racontait. J'ai essayé de retrouver les témoins de l'époque, des différentes décennies. Et à l'arrivée, beaucoup de gens qui sont interviewés dans cet article, j'en ai sollicité 36. Il y en a 23 qui sont cités et qui, je le précise parce que c'est assez rare, sont tous ce qu'on appelle on, c'est-à-dire à visage
propos.
Découvert. Et ils ont tous relu, à l'exception de Véronique Ruggia, j'y reviendrai tout à l'heure parce qu'elle n'a plus répondu à mes sollicitations, mais en tout cas, ils ont tous relu leurs propos. Donc chaque mot a été pesé, c'est très important, parce que c'est pas des propos comme ça à l'emporte-pièce, c'est des longues interviews que j'ai menées, que j'ai enregistrées avec leur accord. Ensuite, je leur ai renvoyé leurs propos, et puis parfois ils ont changé un verbe, un mot, pour être très précis. Donc on est sur une enquête où chaque mot a été pesé, et c'est important. Mais il n'y a pas que des témoignages, il y a aussi des documents. Et c'est là où il faut un petit peu s'arrêter là-dessus. Il y a notamment des lettres qu'a adressées Christophe Ruggia en 2006 et 2007 à Adèle Haenel, que Adèle Haenel a retrouvées, qu'elle m'a transmises. Et dans ces lettres...
Ce qui veut dire que tu as bousculé un peu Adèle Haenel pour obtenir des éléments.
On le dit souvent, et on l'avait dit dans l'affaire Luc Besson aussi, mais on n'est pas tendre avec les victimes parce qu'on va vraiment leur demander un certain nombre de points, on revient vers elles, on dit mais là, vous avez dit ça, on a retrouvé ça, etc. On demande des documents, on demande beaucoup de choses. Donc, faut pas croire que tout ça est un long fleuve tranquille pour les personnes qui témoignent. C'est un long processus, c'est difficile, ça fait 7 mois que je travaille et que je pose des questions aux uns et aux autres et que j'essaie de recouper tout ça. Mais qu'est-ce qu'il dit Christophe Ruggia dans ses lettres ? Il dit que, notamment, son amour pour Adèle Haenel a été lourd à porter parfois. et qu'il a été sincère, mais qu'il a été lourd à porter. Donc il déclame ses sentiments dans cette lettre. Il dit beaucoup d'autres choses, mais ça, pour moi, c'était un élément qui était important. On a retrouvé des photos du festival, on a retrouvé tout un ensemble de choses, et les témoignages sont intéressants parce qu'ils sont nombreux, mais ils sont aussi dans un pluralisme de situations. Il y a des témoignages de l'entourage d'Adèle Haenel, à l'époque, aujourd'hui, des témoignages du fameux film « Les Diables » et du tournage, à l'époque et aujourd'hui.
Je souligne qu'il y a même pratiquement tous les métiers du cinéma qui ont participé à ce film sont interrogés. Exactement. Donc c'est comme un récit avec toutes sortes de focales et on voit tous les regards, et y compris des personnes qui, quand elles ont senti ou dit quelque chose, ont été mises à l'écart et le racontent.
Alors donc, voilà, ça c'était important.
La parole était là déjà.
Dans ce pluralisme de situation, quand on regarde le tournage, parce que qu'est-ce qui se passe sur ce tournage, il y a une emprise qui se noue, c'est ce que raconte Adèle Haenel et d'autres personnes. Il y a un conditionnement qui se noue notamment dans les répétitions. Il y a 6 mois de répétition avant le film, parce qu'il y a beaucoup de scènes de nudité dans ce film, on en reparlera peut-être. Donc il y a eu beaucoup de travail avec les deux acteurs principaux, Adèle Haenel et Vincent Rocher.
Je vais préciser tout de suite, donc, le film, c'est l'histoire d'un garçon et d'une fille, deux jeunes enfants qui ont 12 ans, 13 ans, qui sont dans l'histoire du film censés être frères et sœurs et qui vont découvrir ensemble la sexualité dans le déroulement du film.
C'est un amour incestueux, effectivement, voilà. Et avec une particularité, c'est que le rôle joué par Adèle Haenel est une jeune fille autiste qui ne peut pas être touchée et qui ne parle pas. Donc c'est un film dont le scénario est évidemment dérangeant, c'est ce que je raconte aussi dans l'article. Mais donc il y a eu toutes ces répétitions pour travailler sur les scènes de nudité, sur le corps, etc., avec Christophe Ruggia et les deux comédiens Adèle Haenel et Vincent Rottier. Et ce que dit d'ailleurs Christophe Ruggia lui-même dans la presse à l'époque, c'est qu'au total, si on prend les répétitions, le tournage et la promotion du film, pendant un an, ces deux enfants sont coupés de leur famille et sont dans un petit cocon. Et ça c'est important parce que c'est le départ de ce que je veux raconter dans cette enquête, c'est ce conditionnement et cette emprise, encore une fois, qu'Adèle Haenel n'est pas la seule à expliquer, puisque beaucoup de gens du tournage disent avoir été dérangés par la relation que Christophe Ruggia entretenait avec les deux comédiens, et notamment Adèle Haenel, et ils décrivent une emprise, effectivement, et deux personnes, effectivement, disent s'être inquiétées et l'avoir fait savoir à Christophe Ruggia et avoir été ensuite tenu à l'écart des répétitions ou des scènes, en tout cas, du tournage.
Parce que tu le dis, c'était le point délicat de cette enquête, tu le dis. Comment distinguer sur un tournage la frontière subtile, entre une attention particulière portée à une enfant qui est l'actrice principale, et dont c'est le premier rôle, et une relation d'emprise et un possible comportement inapproprié. Comment sortir de ce qui sera l'alibi? Bah écoutez, comme il le dit d'ailleurs dans la réponse qu'il nous a envoyée par son avocat, c'est moi qui l'ai faite, dit-il, quelque part, et en plaquant cette relation qu'il prétend être une relation...
En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que justement, les gens ont essayé de voir des choses à l'époque sur le tournage, ont essayé de mettre des mots là-dessus. Ils ont parfois eu du mal. Parfois, ils ont eu un sentiment de devoir alerter, mais ils ne savaient pas trop comment faire. Donc, ça renvoie à un sujet qui est encore d'actualité, même après MeToo aujourd'hui. Comment les gens font quand ils ont un sentiment de malaise et comment ensuite ils alertent et sont entendus ou pas.
En suivant le cheminement de l'enquête de Marine, est-ce que ça a été douloureux? Est-ce que ça, y compris, vous a appris des choses que vous ne saviez pas? Comment vous avez, parce que vous avez finalement accompagné ces 7 mois d'enquête?
C'était beaucoup de choses en même temps, en fait. Ça a été compliqué parce que, en fait, j'étais très soulagée. Je dois dire que j'avais pris ma décision de parler avant. C'est-à-dire, ma décision de parler, je l'avais prise parce que j'avais vu ce documentaire et que j'avais eu cette information comme quoi il refaisait un film. Que là, vraiment, j'ai décidé, genre, ça suffit. Et en fait, il se trouve que par chance, vraiment par chance, je connaissais pas Marine, on s'est rencontrés à cette occasion-là juste après. Donc j'avais déjà décidé. Et si vous voulez, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à décider à parler, oui, ça a été difficile parce qu'il y a eu des résistances et des choses qui n'ont pas forcément été évidentes. Et je pense notamment aux familles et choses comme ça, où en fait, on peut en reparler après, tout à l'heure. C'est quelque chose qui est compliqué.
Mais parlez-en maintenant.
D'accord, j'en parle maintenant. C'est juste que, voilà, il y a des systèmes d'omerta dans les familles qui sont pas faciles, parce que quand on se bat quand on parle du patriarcat, on en parle de manière un peu à l'extérieur d'eux, alors que c'est à l'intérieur d'eux. Et c'est vraiment dans le lien entre l'amour, en fait, l'amour familial et le système de silence et d'oppression qui va avec.
Vous voulez dire le poids des pères?
Potentiellement, oui. Et les gens qui ont peur aussi, en fait, c'est pas forcément de la méchanceté ou quoi, c'est juste de la peur. Et en fait, il faut comprendre ça, l'immobilité. Parce qu'elle est issue de la peur, et en fait, c'est ça qui fait pourrir les familles aussi. Et ça, c'est, je veux dire. Et ça, c'était pas forcément évident, mais là où ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'était très bien. Parce que, en fait, ouvrir la parole, ça m'a permis de rencontrer, comment dire, de prendre connaissance, je sais pas, de nouvelles solidarités, de rencontrer des nouvelles personnes, et même dans mon rapport à ma famille. Je veux dire, mon but n'était pas la destruction. Mon but, c'était juste, regardons-nous et évoluons, parce que c'est ça aussi aimer, quoi. Enfin, c'est même ça, aimer, en fait. Et du coup, bah, c'est ce que je veux dire. Pour moi, cette enquête, elle est extrêmement forte, extrêmement vitale. Elle n'est pas... Aujourd'hui, je suis nerveuse et ça me stresse, etc. Mais ça me donne un élan de vie incroyable. Et je pense qu'il ne se limite pas à moi-même, en fait. Que c'est déjà dans mes proches et puis dans... J'espère dans d'autres familles aussi. Du coup, voilà. Et donc, en fait, si vous voulez, à partir du moment où j'étais déterminée et où, en fait, j'ai pu regarder en face mes liens et voir leur niveau d'amour, leur niveau de toxicité à certains endroits, mais, et d'essayer de les démêler un peu, bah, ça m'a fait du bien. Ça change tout. Ça change mon rapport au monde, ça change mon rapport à l'amour, aux gens, à l'espoir que j'ai dans le monde, en fait. Je ne sais pas comment dire. C'est nécessaire de parler.
Mais ça fait du bien à nous aussi.
Bah c'est pour eux, ouais. Bah c'est parce que je pense pas que ce soit qu'une affaire privée, en fait.
Bah bien sûr, bien sûr. Et ça nous fait du bien à tous.
Et voilà. Parce que...
J'avais une question. Il faut poser des questions. J'ai envie parfois de laisser des silences, mais vous avez décidé de parler, et de parler à Mediapart.
Oui.
Sans doute à cause de l'engagement de Marine, de Léaïque Bredou et de toute l'équipe de Mediapart sur tout cela, sur les violences sexuelles. Mais vous auriez pu saisir la justice. Les faits ne sont pas prescrits. Pourquoi pas la justice?
Déjà, je veux dire, j'ai pris une décision. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas plusieurs options. Mais j'ai pris cette décision et je dois dire que... Quand je vous disais, j'avais de toute façon envie d'agir. Je n'ai jamais vraiment envisagé la justice. J'avais pensé à des procédures justement internes au cinéma, à des situations où on pourrait convoquer des gens du cinéma et parler de cette histoire. Mais en fait, je n'ai jamais pensé à la justice parce que, comment dire, il y a une violence systémique qui est faite aux femmes dans le système judiciaire. Et ça, c'est aussi ça dont je pense qu'il faut parler. C'est qu'en fait, moi, je crois à la justice, mais il faut que la justice, elle parle de toute la société. Quand on voit à quel point les femmes sont méprisées, je veux dire, c'est pas moi qui l'apprends, ça, hein, je veux dire, dans le système judiciaire où, peut-être Marine pourra le dire mieux que moi, mais dans les situations, par exemple, de violences sexuelles ou de viols, c'est un viol sur 10, c'est bien ça sûr. Qui aboutit à une condamnation en justice. Ça veut dire quoi, des 9 autres? Ça veut dire quoi de toutes ces vies, en fait? La justice doit se remettre en question, de ce point de vue-là. Moi, je crois à la justice, et je crois que la justice peut se remettre en question, mais elle doit impérativement le faire si elle veut être à l'image de la société. C'est aussi pour ça que je passe par Mediapart. Parce que c'est une façon de dire, en fait, on n'est pas là pour... je veux dire, il y a tellement de femmes qu'on envoie se faire broyer, soit dans les façons dont on va récupérer leurs plaintes, soit dans la façon dont on va disséquer leur vie et puis porter le regard sur elles. La faute, c'est elle. Alors, comment elle s'est habillée? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a bu? Mais arrêtons, quoi. Moi, c'est pour elles que je fais ça aujourd'hui, aussi. En grande partie. Parce que c'est pas qu'est-ce qu'elles ont fait, c'est genre, s'il vous plaît, il faut qu'on se regarde tous et qu'on considère que la justice, actuellement, n'est pas représentative de la société. Et ça, c'est un problème.
Vous savez, en préparant l'émission, j'ai pensé, il y a un roman et un film d'un grand réalisateur, Stanley Kubrick, et le roman d'un grand romancier, Vladimir Nabokov, Lolita. Et quand on va sur Internet, Lolita, donc c'est l'histoire d'un homme qui, dans le roman, de 12 ans, et dans le cinéma, elle a 16 ans, enfin, la jeune fille, 12 ans, donc qui abuse, et évidemment, c'est présenté sous cette forme euphémisée d'un amour impossible et transgressif. Mais quand on tape sur Lolita et sur Internet, on dit Lolita, c'est devenu synonyme, c'est en écho de ce que vous voulez
bien
dire.
Bien sûr.
Aguicheuse.
Je voudrais aussi.
L'infaite, aguicheuse. Et donc, vous voyez, elle l'a bien cherché.
Oui.
Voilà.
Je me permets de dire aussi qu'il ne s'agit pas de censure là. Mais regardons les choses en face. Je veux dire, c'est parce que des livres sont produits massivement sur ce thème de, en fait, de la culture du viol, en fait, du fait qu'il faut enlever les femmes, qu'elles sont des objets qui n'ont pas de pensée, c'est parce qu'il y a ça que d'un coup, Rudja, il peut se raconter à lui-même, c'est une histoire d'amour. Quand bien même moi, quand il vient se coller à moi, je me colle dans le bout du canapé, je m'enfuis, je veux dire. Il s'agit pas, il y a aucune ambiguïté, en fait, dans la situation présente. Il y a une ambiguïté parce qu'on a créé toute une histoire de ce que c'était qu'un rapport, que le rapport aux femmes. Là, je parle des femmes, je peux parler des enfants, je suis à l'intersection des deux. Donc, Mais je veux dire, c'est pour ça qu'il faut questionner ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut les censurer, mais il faut le faire. Parce que c'est des façons, après, que les agresseurs peuvent se raconter toute une histoire romantique au sujet d'un truc qui n'est pas du romantisme, qui est de l'oppression, qui broie la vie de tellement de gens, tellement de femmes. Et comme le monde a fonctionné comme ça, de manière, je veux dire, sans problème, avec le silence des femmes, depuis tellement de temps.
Et l'aveuglement des hommes.
On considère qu'on a inventé avec MeToo la violence des qui était faite aux femmes. Mais non, c'est juste qu'on a tellement encaissé, en fait. On a tellement encaissé. Et c'est possible de faire autrement, société. C'est possible. C'est bien pour tout le monde. C'est bien en premier lieu pour les victimes. Mais c'est bien pour même les bourreaux, en fait, qui se regardent en face. C'est ça, être humain. C'est pas écraser et essayer d'obtenir du pouvoir. C'est se remettre en question et accepter ça, et accepter le côté multidimensionnel de ce que c'est qu'un être humain. Et comme ça, on fait une belle société. Comme ça. Si on est là à vouloir maintenir en place des ordres qui sont, comment dire, stérilisants pour la pensée, pour le cœur, pour le rapport à autrui. Mais on construit le monde qui va à sa perte, quoi.
Il y a une phrase très forte dans l'enquête de Marine. Vous dites « Le silence n'a jamais été sans violence. Le silence est une immense violence, un bâillonnement. » Je voudrais souligner ça parce qu'il y a les faits, vous les avez évoqués, ils sont encore plus en détail dans l'article. Mais il faut rappeler qu'en 2005, vous décidez de rompre, de casser, et vous êtes en morceaux. Êtes en morceaux. Les faits, c'est que vous ne savez plus comment vous en sortir, vous ne voyez pas d'autre issue que la mort de lui ou elle, ou bien le renoncement à tout. Vous renoncez au cinéma. Oui. Je veux dire, tout ça se paye très cher.
Oui, sauf que, en fait, c'était assez brouillon dans ma tête de savoir quelles étaient les responsabilités, évidemment, parce que ça va pas tel que quand on est victime de quelque chose, on se dit tout de suite qu'on est victime, en fait. Même ça, on nous l'enlève. On se dit non, c'est de ma faute, je dois traverser une crise d'adolescence, je dois être caractériel ou je sais pas quoi. Mais non, en fait.
On retourne ça contre soi.
Bien sûr, parce qu'on peut même pas se poser sur soi-même le terme de victime. Du coup, c'est dernièrement là, parce que le fait de faire cette enquête m'a fait remettre en ordre des choses, re-questionner. Et en fait, même si là, je dis les choses de manière passionnée, en fait, c'est très calme. Mais c'est juste que j'avais pas cette conscience de moi-même comme étant victime. Donc le désordre qui a régné dans ma vie, je n'ai pas même pu l'imputer à ça. Mais oui, en fait, ça a été très dur. Et oui, j'ai essayé de sauver la face. De commencer par sauver la face de Christophe Rudja lui-même, qui ne se voit pas, en train d'abuser de moi. Je veux dire, je l'ai protégé lui, ça s'appelle de l'aliénation, ça. Et ça, c'est un procédé qui est bien à l'œuvre. Et protéger aussi mes parents, en fait, parce que j'étais juste, j'ai pas envie de leur faire de la peine. Parce que en fait, je les aime. Et que j'avais pas envie de leur faire de la peine, mais cet amour-là, il faut passer, faut le procéder pour qu'il devienne plus beau. Parce qu'en fait, là, il était stérilisant et il allait, moi, il me conduisait à ma perte, à l'autodestruction. Et c'est pas, ça, c'est pas, voilà, c'est, vous voyez ce que je veux dire. Et je vais finir, je voulais juste finir. Mais oui, ça a été très long. Et je dois dire qu'il y a une partie très douloureuse qui a duré, que je pourrais pas mettre je ne pourrais pas mettre une fin. Je pourrais juste dire, à partir du moment, je ne sais pas quand clairement ça s'est fini, mais je sais qu'à un moment, c'était plus là. Que j'avais plus cette haine de moi-même et ce désespoir, en fait, qui hantait toutes les choses. Et ça, voilà, je dois dire que, je ne sais pas, ça s'est passé par le fait que j'ai eu la chance de faire des rencontres qui m'ont littéralement sauvé la vie, en fait. Et puis, petit à petit, reprendre confiance dans le lien humain.
Dans le second film que vous avez fait avec Céline Sciamma,
Innocence des pieuvres.
Vous vous êtes confié et vous. Voilà, vous avez.
Oui. Oui, parce que voilà, enfin, moi je suis un peu choquée par ce que dit Rujia dans son démenti. Enfin, déjà, je suis choquée qu'il démente, en fait. Je trouve ça choquant. Je sais pas comment dire. Il faut reconnaître nos récits. Ça ne veut pas dire que vous n'avez plus le droit d'exister. Mais vous devez reconnaître nos récits. Ça, c'est tellement violent de nous interdire même cette chose-là. C'est... Bon, bref, donc je suis choquée par tout ce qu'il dit. Mais je suis choquée s'il fallait encore plus par le fait qu'ils disent qu'il m'a découverte. Parce qu'en fait, il m'a surtout détruite. D'accord ? Et qu'en fait, si Christophe Rujia a eu de l'emprise sur moi, c'est parce que moi, le travail sur le jeu, le théâtre, c'est quelque chose que j'ai viscéralement dans le corps. C'est quelque chose qui m'habite depuis que je suis enfant. Et ça, le rapport aux émotions, etc. Donc, c'était pas... J'ai écrit dans l'article, et puis j'ai dit ça quelques reprises, quand j'ai dit que j'ai renoncé au cinéma. Mais c'était énorme, hein. De toute façon,
renoncé à votre vie, en fait.
Un truc qui était... En tout cas, qui m'appartenait en moi-même, et qui était une passion, quoi. Je veux dire, le cœur brûlant de ma vie, c'était ça. Mais je dois dire aussi, pour ajouter quelque chose, c'est que, disons qu'après Les Diables, j'ai fait un peu de théâtre au lycée, etc. Mais j'étais nulle. Parce qu'évidemment, j'étais coupée en deux. Parce que je ne pouvais pas faire de théâtre. Puisque je passais mon temps à mentir. Donc, ce n'était pas possible. Donc, voilà ce que j'ai... Et du coup, j'ai fait... Pardon, je parle peut-être trop.
Non, pas du tout.
Et donc, on a fait Naissance des pieuvres. J'ai rencontré Céline Sciamma, qui est la réalisatrice, avec qui, en fait, j'ai une histoire d'amour très longue et très belle. Et qui m'a... Comment dire ? Bah, quand je parle des gens qui m'ont sauvé la vie, je vais vraiment commencer par elle, quoi. C'est-à-dire que, en fait, tant la relation qu'on a eue avec Céline, à l'inverse de tout ce qui m'était arrivé avant dans la vie, c'est quelqu'un qui m'a écoutée, qui a pris acte de ce que je disais, qui a écouté ma colère, ensemble, parce que c'est pas juste elle n'était pas immobile et moi j'étais mobile, on était toutes les deux mobiles, on a fait face à la vie et on s'est élevés. Et voilà, enfin, c'est pour dire. Et donc Céline n'est pas l'unique rencontre que j'ai faite qui m'a permis de reprendre le dessus. Mais c'est une rencontre très importante. Et il y en a eu d'autres, qui parfois même de gens potentiellement plus anonymes d'ailleurs, et qui m'amènent aujourd'hui dans la capacité de formuler le fait que j'ai été victime et l'envie de parler pour soutenir les autres qui sont, c'est ça le truc, qui sont esselés, qui ne s'appellent même pas eux-mêmes victimes, et qui s'infligent une double peine, que leur bourreau, je veux dire, de protéger leur bourreau, et de s'en vouloir à elles-mêmes d'être victimes. C'est vraiment pour ces filles et ces enfants et ces garçons que je prends la parole, pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls, et que, en tout cas, moi, je serai là, et que j'assume.
Ce que vous venez de dire, évoque, on l'a vaguement mentionné au tout début, puisque l'enquête... À partir de votre témoignage, est accompagné d'une autre enquête de Marine Turquie sur les violences sexuelles dans le cinéma et l'omerta dans le cinéma français. Et y a quelque chose d'important, c'est qu'au fait, votre engagement, c'est aussi un engagement, quelque part, où on sent que le statut, entre guillemets, social que vous avez obtenu, conquis, gagné, vous oblige, vous le dites d'ailleurs, dans ma situation actuelle, mon confort matériel, la certitude du travail, mon statut social, je ne peux pas accepter le silence. Non. Et s'il faut que cela me colle à la peau toute ma vie, si ma carrière au cinéma doit s'arrêter après cela, tant pis, mon engagement militant est d'assumer, de dire voilà, j'ai vécu cela, et ce n'est pas parce qu'on est victime qu'on doit porter la honte, qu'on doit accepter l'impunité des bourreaux, etc. Non. Donc, en fait, c'est parce que il y a aussi dans cet événement que vous créez, c'est un moment quand même, comme un moment politique, comme un événement politique que vous créez dans ce long combat, qui est le fait que vous êtes plus connu que celui qui vous a agressé. C'est votre force, c'est votre qui.
Et c'est la condition même de la parole là, dans ma situation. Parce qu'il ne s'agit pas de lynchage, en fait. Hein. Mais si on regarde les choses, quand les femmes, quand les filles qui portent plainte ou qui dénoncent des faits sont moins connues, on dit « Ah, elle voulait du travail !» Ou « Comme je vous l'ai dit, elle l'a bien cherché, elle ment pour se faire mousser, etc. » On dénigre leurs paroles. Quelle violence ! Je veux dire, moi, là, aujourd'hui, je sais ce que c'est que de venir. Moi, j'ai rien à gagner là, ce soir, en fait. Si ce n'est le fait de dire que je crois dans les humains. Je sais pas comment dire, c'est aussi con que ça. Je crois dans l'humanité, je crois dans le réveil possible. Et c'est pour ça que je parle. Je parle pas parce que j'ai un intérêt de carrière derrière. Ou parce que, je sais pas, je parle juste par humanisme, en fait. Et donc, c'est pour dire que la parole des victimes, quand elles sont encore des victimes, est considérée méprisée. Et c'est pour ça que moi, je parle. Et je suis, quelque part, désolée pour Christophe Roudia, que ça lui tombe dessus. Mais genre, c'est... Si moi, là, je me dis, je peux abriter mes sœurs, en fait, qui sont tellement plus précaires. Donc voilà pourquoi je prends la parole et pourquoi il était nécessaire que je sois plus connue que finalement mon agresseur, quoi.
Et merci.
Pardon, excusez-moi.
Oh non. Non, je vous dis merci.
Je voudrais préciser quelque chose, parce qu'on dit souvent il faut que les victimes parlent, on leur demande de porter plainte, de parler, de s'exprimer. Et on ne parle pas beaucoup des témoins. Et dans ces enquêtes-là, on ne pourrait pas faire ces enquêtes-là journalistiques s'il n'y avait pas des témoins qui pouvaient eux aussi parler. Et c'est important de dire ce soir que les témoins, les hommes et les femmes, qui peuvent avoir vu des choses, entendu des choses, et qui doivent alerter quand il y a des choses. Et notamment, en l'occurrence, de par exemple, comment tout cela a débuté sur le tournage, mais ensuite, par la suite, quand justement vous alliez à son appartement et que des gens
après
ont vu qu'il y avait,
après une le fois
tournage,
le film terminé.
Les rendez-vous réguliers à son appartement.
Les samedis.
Le samedi, par exemple. Et là-dessus, il y a un témoignage qui est important et dont on n'a pas encore parlé, qui est dans l'enquête, c'est celui de la réalisatrice Mona Achache.
Qui a été la compagne de Christophe.
Qui a été une compagne de Christophe Roudia, effectivement, et qui a le courage de témoigner dans cet article pour dire les confessions que lui aurait faites Christophe Roudia. Et je voudrais juste lire ce passage parce qu'il est, oui. Il est important et il montre l'importance de la parole de gens comme ça dans des enquêtes journalistiques. Il m'avait confié avoir eu des sentiments amoureux pour Adèle lors de la tournée promotionnelle des Diables, c'est ce que m'explique Mona Achache. Elle affirme qu'après l'avoir questionnée avec insistance, il aurait fini par lui relater une scène précise. Et là, je la cite à nouveau, il regardait un film avec Adèle, elle était allongée, la tête sur ses genoux à lui. Il avait remonté sa main du ventre d'Adèle à sa poitrine sous le t-shirt. Il m'a dit avoir vu un regard de peur chez elle, des yeux écarquillés, et avoir pris peur lui aussi et retiré sa main. Et ce que raconte Mona Achache après, c'est qu'elle comprend qu'il n'a pas compris l'importance de son geste et que même s'il a retiré sa main, ça peut créer un traumatisme, bien évidemment, sur une enfant. Et puis...
Et elle dit juste après que, du coup, après ce moment-là, elle l'a quitté.
Donc voilà, elle dit qu'elle a été sidérée de ce récit, de son manque de prise de conscience et de l'analyse qu'il en faisait lui. Elle dit qu'elle l'a effectivement quitté quelques temps après ça, assez rapidement, brutalement et sans lui dire pourquoi. Elle était effectivement sidérée. Elle dit qu'elle en a parlé à une amie proche, qui me l'a confirmé dans cette enquête, mais qu'elle n'a pas voulu en parler au-delà et alerter parce qu'elle ne voulait pas parler à la place d'Adèle Haenel et qu'elle avait peur, justement, de n'ayant pas son récit directement, de qu'est-ce qu'elle allait faire avec tout ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est important parce que sans ces témoignages-là, on ne pourrait pas faire ces enquêtes-là. Parce que, évidemment, qu'on doit recouper des éléments, on doit vérifier, on doit... Voilà. Et dans cette enquête, je dois dire que tout le monde a répondu de manière ouverte, à visage découvert. Personne n'est anonyme. Et par ailleurs, personne ne m'a dit, comme on l'a dans beaucoup d'enquêtes, « Non, mais je ne crois pas ce que dit Adèle Haenel. Non, je pense que c'est faux, etc. » Personne n'a remis en cause sa parole. Et ça, c'est quand même important. Ça dit aussi peut-être de la puissance, etc. Mais ça dit des choses sur le fait que beaucoup de gens avaient quand même des alertes.
Dans cette enquête, on a suivi depuis deux mois, quand ça a commencé à se concrétiser au sein de l'équipe de Mediapart. Est-ce que tu t'es dit à un moment qu'on aurait pu avoir l'espoir que, en plus de la force de cette enquête, qui en fait un moment de basculement, donc, le communiqué de la SRF le montre et les suites font sans aucun doute le montrer, même ce qu'on fait ce soir. Est-ce que tu t'es dit à un moment, et si Christophe Roudia, lui aussi, faisait le chemin? Et si on avait ça en plus, quelqu'un qui disait, l'homme qui pensait, agissait.
En tout cas, j'ai vraiment souhaité et espéré qu'il puisse accepter déjà de me rencontrer. Je lui ai vraiment proposé à plusieurs reprises une rencontre, un entretien. Il n'a pas donné suite. Ensuite, du coup, je lui ai transmis des questions détaillées. avec notamment une question où il y avait une perche qui pouvait saisir, une question qui pouvait vraiment attraper en s'expliquant, en expliquant les choses de son point de vue et les gestes dont il n'avait peut-être, je ne sais pas, a pris la mesure, par exemple, ça fait partie des questions que j'aurais voulu
Parce qu'il
poser.
Faut que les hommes se bougent aussi.
voilà, donc j'avais quand même espoir qu'ils puissent prendre cette perche et accepter la rencontre et pouvoir expliquer les choses. Et il ne l'a pas fait. Il n'a pas non plus souhaité répondre aux deux pages détaillées de questions que je lui ai adressées. À la place, on a eu trois lignes de démenti par son avocat. Mais
on a eu l'espoir avec sa sœur. Qui est féministe, qui a des engagements féministes. Elle aussi, comme d'ailleurs, il faut le souligner, Christophe Ruggia, il fait partie des réalisateurs qui ont des engagements politiques sur les migrants, sur les questions d'égalité, sur les questions de discrimination. Donc, sortir de cette sorte de schizophrénie, on a des engagements, et puis quand on est concerné au plus secret de soi-même, par la conformité avec ses engagements, ne pas se dérober.
En tout cas, sa sœur ne s'est pas dérobée puisqu'elle m'a répondu. Ses réponses figurent effectivement dans l'article. Elle dit aussi son embarras en tant que sœur, en tant que féministe, en tant que première assistante réalisatrice sur le film Des Diables, donc ayant travaillé avec Adèle Haenel et Vincent Rothier, et n'ayant peut-être, dit-elle, pas vu certaines choses qui ont pu se passer. Donc elle dit que tout ça fait que sa situation est compliquée. Mais elle m'a quand même confirmé qu'Adèle Haenel et Céline Sciamma lui ont rapporté les faits il y a maintenant 10 ans. Et puis ensuite, elle dit surtout une information importante. Elle dit qu'elle en a parlé à son frère. Donc aujourd'hui, Christophe Ruggia ne découvre pas ces accusations.
Ça
fait 10 ans qu'il le sait. Et malgré tout, et ça reste aussi une des énigmes de l'enquête, il poste une photo d'Adèle Haenel il y a un mois, lors de la sortie du film Portrait d'une jeune fille...
De la jeune fille en feu, film de Céline Sciamma.
Voilà, une photo issue du film avec un cœur. Et ça, c'est une vraie question que je voulais lui poser. Pourquoi cette publication, alors qu'il a connaissance depuis 10 ans, d'après sa sœur, des accusations qu'il vide? Voilà, il n'a pas voulu expliquer tout ça, il y avait pourtant beaucoup de choses à dire, il aurait pu effectivement venir prendre la parole dans cet article.
Oui.
Allez-y.
Je voulais dire qu'il ne s'agit pas, en complément de ce que vient de dire Marine, c'est qu'en fait, cette personne met en place un système d'isolement de moi, donc jeune fille à l'époque, très jeune fille, parce que j'ai donc entre 12 et 15 ans, me met en place un système d'isolement pour m'avoir chez lui à disposition tous les week-ends, d'accord. C'est pas quelqu'un qui a une pulsion, et c'est un harcèlement qui est
la scène récurrente du canapé,
qui est permanent en fait, hebdomadaire si on veut être plus précis, hebdomadaire. C'est ça qui fait. Ça n'est pas une si la personne est soumise à des pulsions et se dit mon Dieu mais qu'est-ce que je fais avec cette histoire d'amour et comment je fais. Il ne met pas en place un système pour m'avoir sous le nez tout le temps, tout seul, me faire culpabiliser de ça. C'est ça que je veux dire. Il faut quand même faire la différence. Il ne s'agit pas d'une malencontreuse caresse, non. Il s'agit de quelqu'un, un homme adulte de presque 40 ans, qui se retrouve tout seul dans une pièce, tous les samedis, avec une jeune fille qui a entre 12 et 15 ans et qui essaye de la tripoter. Et qui ne fait pas que essayer, d'ailleurs. Je veux dire... C'est ça dont on parle. C'est pas oh malheureusement ça lui est arrivé une fois comme il semble le dire.
Qui est excité et qui vous dites ce mot, il est excité, et il veut des relations sexuelles en fait.
Moi c'est ça c'est mon interprétation. Et je pense qu'elle est quand même assez valable étant donné que j'ai quand même subi ces assauts pendant pas mal de temps, pour ne pas dire quelques années.
Donc, parce que il faut dire, on a titré là-dessus en disant combien vous aviez brisé un nouveau tabou. Il y a ce tabou de l'omerta dans le cinéma que vous aidez tout le monde à lever. Et puis, il y a au cœur de ce que votre témoignage, de votre histoire, c'est le tabou de la, entre guillemets, pédophilie, que l'on préfère dire pédocriminalité. Il s'agit de l'emprise sur l'enfance. Et ça a un écho, puisque ce qui a beaucoup troublé le cinéma et divisé le cinéma, et au début du mouvement MeToo en France... C'est un réalisateur, Roman Polanski, dont un film va sortir, qui a reconnu des faits. Alors, il n'a pas admis que c'était des faits de viol, mais sur une actrice, une jeune fille qui avait à l'époque 13 ans, aux États-Unis en 1977.
Oui, qu'est-ce que je peux dire? En fait, c'est-à-dire que quand on défend, on dit ça n'est pas du viol. Enfin, j'invite les gens à lire la description hein, des actes sexuels qui ont été commis à cette occasion.
Il est reconnu dans le plaidie
oui,
les des coupables.
Donc, de quoi on parle, hein, c'est de quoi on parle, hein, c'est quand même, on parle beaucoup effectivement d'une enfant qui a 13 ans et d'un homme adulte qui la force à avoir des relations sexuelles. Donc, si ça ne s'appelle pas du viol et si ça, il y a un truc là que je ne comprends pas, on va dire. Et peu importe, les faits derrière sont extrêmement graves. Et mais voilà, enfin moi j'ai effectivement parlé de. En fait, si vous voulez, l'idée c'est pas de dire comment dire, c'est pas de dire il y a des monstres. Parce qu'on n'est pas en train d'isoler les gens de la société en fait. Comment est-ce que c'est possible que ça arrive? Qu'est-ce qu'on a tous comme responsabilité collective pour que ça arrive? C'est ça dont on parle. Si vous voulez, les monstres, ça n'existe pas. C'est notre société, c'est nous, c'est nos amis, c'est nos pères. C'est ça qu'on doit regarder. Et ça ne veut pas dire qu'on doit... Comment dire je veux dire, on n'est pas là pour les éliminer, on est là pour les faire changer. Mais il faut passer par un moment où ils se regardent, où on se regarde. C'est ça qu'il faut faire. Vous voyez? Donc effectivement, on peut parler... Il y a des cas emblématiques, et la situation de Polanski est malheureusement un cas emblématique. Parce qu'elle est, si vous voulez... oui, il est représentant de la culture, on entend tout le temps parler de lui. Je veux dire, si la société elle-même n'était pas aussi violente vis-à-vis des femmes, si on n'en avait pas, si dans la société on méprisait pas à ce point les violences faites aux femmes, mais la situation de Polanski quelque part n'aurait pas ce rôle. Là, il a un rôle emblématique d'une société dans laquelle une femme sur cinq, et je suis gentille parce que je pense que c'est beaucoup plus que ça, est confrontée directement à la violence, disons-le, faite par 98% du temps, c'est faite par des hommes. Donc on peut quand même questionner. Cette question de qu'est-ce que c'est, comment on construit la virilité aujourd'hui. Et ça me semble fondamental. Et donc, c'est pour ça que le débat autour de Polanski ne se limite pas à Polanski et à sa monstruosité, mais implique toute la société.
C'est dans ce contexte que vous aviez appelé au Festival de La Roche-sur-Yon à ce qu'il y ait... Il y avait une avant-première du film qui va sortir d'ici 10 jours, J'accuse, autour de l'affaire Dreyfus, qui, vous disiez, il faut encadrer, il ne s'agit pas de censure, il faut encadrer. Et vous parliez, c'est une formule forte par rapport à toujours l'alibi de la création, la différence entre un homme et un artiste.
Oui. Je voulais juste...
Par un débat, par une réflexion.
Absolument. Je voulais juste dire que j'aimerais bien faire un truc avant de passer la parole aussi, genre personnellement. Je veux dire, je le dis parce que j'aimerais bien lire une lettre, en fait. Parce que ça n'a pas à voir avec l'histoire dont on parle, mais c'est juste que j'aimerais bien le faire avant de finir. On doit prendre en charge cette question. Parce que c'est un alibi. Et pour moi, c'est pour ça que ma démarche, je pense qu'elle est extrêmement pacifiste. Il ne s'agit pas de censurer. Il ne s'agit pas de diaboliser. Mais il s'agit d'ouvrir la parole et d'écouter les récits. Qui on écoute, c'est ça qui va définir notre société. Si on considère qu'écouter des gens qui sont cyniques, qui sont froids, cruels, c'est ces gens-là qu'on a envie d'écouter. Mais quelle société on veut? C'est ça aussi. Et c'est pour ça que je pense que la parole est de toute façon, quand elle est sincère, toujours il y a quelque chose de bien quand ça circule. Quand on ne cherche pas à faire taire, mais qu'on cherche justement à soulever des questions et à agiter la responsabilité individuelle de chacun aussi. Chacun est capable, en fait, de se positionner. Et c'est pour ça, mais on a besoin d'outils, parce que ce sont les impensés de notre société, c'est compliqué, donc on a besoin de gens qui vont nous donner, déplier la situation, voilà, qu'est-ce que c'est, en fait, quand on parle de la culture du viol, de quoi on parle? Et avec une succession de questions sur lesquelles... les gens ne vont pas être d'accord, je veux dire, on n'est pas tous d'accord, mais ce n'est pas grave. Mais au moins, on parle tous de la même chose, on parle tous des mêmes questions. Vous voyez, alors que les résumés, les blocs et tout ça, ces trucs-là, c'est des gros facteurs d'oppression, comme le silence. Le silence, c'est la meilleure façon de maintenir en place un ordre qui est lié à l'oppression. Les gens qui n'ont pas accès à la parole, ce sont les gens opprimés, et vice-versa, n'est-ce pas? Mais c'est ça, c'est pour ça que c'est crucial de parler.
Avant que vous lisiez votre lettre, si je vous dis, et je voulais votre réaction là-dessus, que votre démarche, votre courage, parce que c'est une chape de plomb qu'il a fallu soulever, on l'a vu là, on l'a entendu, on l'a senti, on l'a, j'allais dire, vu de manière sensible, Et bravo, merci à Marine d'avoir permis ça.
Oui, vraiment merci. Oui.
Voilà. Je vous dis comment je ressens ça. Je me dis, en fait, on assiste à une révolution des femmes qui va nous libérer tous. Non seulement dans votre engagement, vos engagements, vous n'êtes pas la seule, mais je rappelle qu'il y a une marche le 23 novembre à 14h à Paris pour, contre les violences sexistes et sexuelles. Marche qui est faite par le rappel qu'il y a près de 130 femmes qui ont été tuées depuis le début de l'année par leur conjoint ou leur ancien conjoint, des féminicides. Quand je dis une révolution des femmes, c'est y compris par la création, l'imaginaire du cinéma. Quand je vois le film, justement, Portrait de la jeune fille en feu, quand je vois Papicha sur la résistance de femmes au moment de la décennie noire en Algérie, quand on voit le film Atlantique qui est fait par une réalisatrice au Sénégal, quand on voit même un documentaire pour Sama, qui est un documentaire au cœur de la guerre civile, on se dit, mais il y a un événement, c'est non seulement nous les hommes qui sommes à juste titre bousculés et remis en cause sur l'inconscient d'une longue domination millénaire, mais en plus, quelque chose qui se passe là, dans la création elle-même, dans la façon de dire, y compris politiquement, les choses.
Absolument. Que dire ? Pour nous, c'est nécessaire. Nos récits n'existent pas, et on en a besoin. Du coup, évidemment, il y a une ébullition. Et ce que je veux dire aussi, c'est qu'en fait, la honte isole, d'accord, la situation et les situations de tout se casse la gueule du coup.
C'est la force de vos paroles qui fait tomber le dossier Bettencourt. C'est une ironie.
Ce que je voulais dire, c'est que la honte isole et vraiment. Et en fait, les récits d'oppression sur les femmes, souvent de violences sexuelles sur les enfants, et je parle toujours des femmes parce que c'est quand même, on est quand même vraiment souvent victimes, quoi. Elle nous isole. La prise de parole, ça nous met en commun. Ça fait de nous un peuple. Et c'est important. On est de constituer ce peuple qui, du coup, devient un peuple militant, un peuple actif, qui contribue comme ça
un peuple à la pluriel, société. Un peuple oui. Multiculturel, intersectionnel.
Et donc, voilà. En plus d'avoir le bienfait pour nous-mêmes, de sortir de l'aliénation, qui est, à mon avis, l'équivalent de passer de 5 paquets de cigarettes par jour à zéro. Je veux dire, c'est à peu près le même effet. C'est qu'en fait, d'un coup, on se dit, oh, mon Dieu, mais en fait, c'est ça, vivre. Voilà. Donc, pour nous, c'est bien. Pour nous-mêmes, en tant qu'expérience intime, mais pour la société, c'est bien parce que ça crée une société engagée.
Marie, je voulais dire. Avant la lettre, une question pour toi. Toi, cette enquête, qu'est-ce que ça a bousculé en toi? Parce que tu maîtrises ton travail de manière très professionnelle, mais on t'a tous suivi, on a vu comment tu étais emporté par cette enquête.
Ce qui m'a sauté aux yeux, c'est l'émotion des gens dans les entretiens. Et je ne parle pas de 2-3 personnes, c'est quelque chose d'assez intégral. Beaucoup de gens ont pleuré durant les entretiens. Beaucoup de gens étaient très émus. Et beaucoup de gens ont eu beaucoup de culpabilité.
Nous le sommes, ici même.
Bien sûr. Et beaucoup de gens ont fait part, exprimé la culpabilité qui était la leur, d'avoir vu, de n'avoir rien fait, d'avoir cru voir et d'avoir hésité, d'avoir tenté d'alerter et de se dire qu'ils n'avaient pas suffisamment alerté. Cette enquête, elle est imprégnée de la culpabilité des gens. Et je ne parle pas seulement de la famille d'Adèle Haenel. Je parle globalement beaucoup de gens, des gens du cinéma, des gens du tournage. Et c'est quelque chose qui, je crois, a ponctué cette enquête parce qu'au fil des mois, les gens me rappelaient, ils avaient besoin d'exprimer ce sentiment-là, de préciser leurs propos. Je crois que ça a interrogé beaucoup de gens. Et j'aimerais que cette enquête, aujourd'hui, elle interroge beaucoup de gens dans les familles, dans les entreprises, un petit peu partout, que ça fasse réfléchir, et notamment, comme je disais tout à l'heure, le rôle des témoins, qui est essentiel. On ne peut pas tout demander aux victimes. Mmh. Les victimes, elles parlent. Encore une fois, ce n'est pas de la libération de la parole, c'est de la libération de l'écoute qu'on a depuis MeToo, parce que les femmes ont toujours parlé. On ne les a juste pas entendues la plupart du temps. Et cette enquête, elle le montre. Adèle Haenel, elle a parlé. Elle a par ailleurs aussi écrit beaucoup de lettres qu'elle m'a transmises et qui ont été importantes dans cette enquête. Et c'est là où on voit la constance du récit, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a une lettre en 2014, notamment, où elle dit tout ça par écrit, ce qu'il y a dans l'article, ce qu'on dit ce soir, et c'est extrêmement fort. Les faits, ils sont déjà là, il y a une constance dans le récit. Donc, les victimes, elles parlent, et ce sont les témoins, c'est la société qui n'entend pas. Et c'est ce qui, moi, m'a marqué particulièrement dans cette enquête. Et puis voilà, quand vous avez les gens qui vous rappellent et qui ont dormi là-dessus et puis qui ne dorment pas, justement, et qui se disent « qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment ?» Et je pense que, malheureusement, aujourd'hui encore, tout ça peut arriver. C'est-à-dire des alertes pas entendues, des alertes non adressées. Voilà, c'était pour ça aussi que j'ai fait un deuxième article, une deuxième enquête sur comment on protège les hommes et les femmes des violences sexuelles sur les plateaux dans le cinéma aujourd'hui. Et on peut parler du cinéma, mais on travaille à Mediapart aussi sur beaucoup d'autres secteurs, l'université, la politique, les syndicats,
le journalisme,
le monde du journalisme, etc. Donc ce n'est pas juste le cinéma. Mais le cinéma, on excuse beaucoup avec la relation prétendument particulière du réalisateur avec ses comédiens et avec l'artistique. On dit, mais c'est l'intérêt de l'œuvre.
La transgression, la création.
Voilà. Ça, c'est quelque chose qui, je crois, est en train de changer, qui est en train d'être questionné aujourd'hui dans le cinéma. Donc, effectivement, c'est tout ça qui s'est un petit peu mélangé dans cette enquête. Mais bien évidemment, on a là un témoignage d'Adèle Haenel qui est très fort. C'est-à-dire qu'en fait, elle a aussi le pouvoir de dire des choses pour beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de s'exprimer comme ça, en termes de discours construit, politisé. C'est ce qui manque aussi à beaucoup de gens. Et puis là, il y a l'occasion, il y a une tribune. Donc effectivement, c'est là où nous, on défend l'intérêt de cette enquête, c'est que c'est la rareté de ce témoignage. C'est aussi les faits dénoncés qui sont des violences sexuelles sur mineurs. Donc là, on est sur un nouveau tabou, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais on est sur une actrice qui prend quand même aujourd'hui, même si elle est célèbre, le risque de parler, de peut-être se fâcher avec des gens, de peut-être pas avoir certains rôles. Malgré le statut de célébrité, et malgré qu'on soit 2 ans après MeToo, il y a quand même tout ça. Donc c'est ça qui nous a semblé, nous, intéressant, de se dire qu'on allait publier. Souvent, on dit qu'il nous faut plusieurs témoignages de femmes, de victimes, pour pouvoir publier. Là, on a estimé que la force de ce témoignage et tout ce qu'on avait pu recouper, les documents, encore une fois, le nombre de témoignages à côté qui pouvaient corroborer un grand nombre de faits, permettaient la publication. Mais au-delà de ça, il y a un intérêt public énorme de ce témoignage aujourd'hui que livre Adèle Haenel.
Vous vouliez lire une lettre à Adèle Haenel.
Oui, parce qu'en fait, je vous disais par rapport... Enfin, je dois dire que moi, j'ai eu l'occasion de recevoir énormément de soutien de gens que je ne connaissais pas au cours de cette enquête. Mais je dois dire que, voilà, je vous parlais du rapport à l'amour dans les familles, etc. Et rapport entre l'amour et le silence. Et je dois dire que, par exemple, j'ai eu un moment un peu compliqué parce que mon père n'a pas immédiatement compris pourquoi je prenais la parole. Il a pensé... Je ne sais pas, comme beaucoup de gens, je pense, qu'il fallait mieux pas parler. Que, attention, on allait faire du mal en parlant. Alors que c'est quelque chose qui, pour moi, qui est, enfin, aujourd'hui, je le sais, que c'est faux. Et donc, j'avais écrit une lettre, parce qu'il m'avait envoyé un mail pour me dire qu'il fallait mieux pas que je parle, etc., dans son incompréhension de l'époque. Et j'avais écrit une lettre, parce que, pour essayer de lui expliquer pourquoi je fais cette démarche, alors il y a peut-être des choses redondantes. J'ai supprimé les choses trop personnelles, donc ouais, il y a des petits trucs noirs dessus, mais... du coup, c'est une lettre que j'ai adressée à mon père en avril. Du coup, je vous la lis. Ça ne va pas non plus être hyper long. Mon cher père, je vais essayer de t'expliquer clairement les choses. Cette affaire remonte à 18 ans. Si j'ai attendu tout ce temps pour dénoncer les faits, c'est du fait d'un ensemble de choses qui rendaient longtemps la parole impossible et aujourd'hui d'un autre ensemble de choses qui rendent la poursuite du silence insupportable. Ce qui rendait impossible de parler, c'est entre autres choses le fait que Christophe était quelqu'un de bien, qu'il avait tellement fait pour moi et que sans lui, je ne serais rien. Que ce qu'aujourd'hui, je considère clairement comme de la pédophilie et du harcèlement, je me forçais à penser, à l'époque, que c'était de l'amour. Comment te dire? Au fond de moi, j'ai toujours su que quelque chose clochait, que ce n'était pas de l'amour. Et quand j'allais chez lui, je me sentais si sale que j'avais envie de mourir. Je le trouvais dégueulasse, mais je me sentais redevable, car il faisait tellement pour moi. Lui me disait sans cesse que nous, c'est pas pareil, que les autres ne pourraient pas comprendre. Il procédait toujours de la même façon. Il se collait à moi, m'embrassait et commençait à me caresser. Je me levais, il me suivait, et je finissais par m'asseoir sur le repose-pied qui était si petit qu'il ne pouvait pas venir près de moi. Car il ne voulait pas voir les choses en face, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas me mettre 2 gifles et me forcer par la contrainte physique, car alors, il n'aurait pas pu éviter de se voir tel qu'il est, c'est-à-dire un homme de 40 ans qui abuse d'un enfant de 12, 13, 14 ans. Tu comprends? Ce n'est pas par respect pour l'enfant que j'étais qu'il n'est pas passé à l'acte. C'est par peur de se regarder en face. Je me suis sentie si sale à l'époque, j'avais tellement honte, je ne pouvais en parler à personne. Le silence n'a jamais été sans violence. Le silence est une immense violence. Tu te souviens probablement de ce moment, de la violence que j'ai traversée seule. Et tu te souviens aussi probablement qu'à l'époque, j'ai coupé les ponts avec tout le monde. J'ai quitté mon agent, j'ai arrêté les castings. J'ai en moi-même abandonné l'idée du cinéma. J'ai choisi de survivre et de partir seule plutôt que de rester. Qui alors est venu me voir pour m'aider, pour mon bien, pour ma carrière? Toute la bienveillance de Christophe ne l'a pas trop empêché de se détourner de moi et de poursuivre son engagement militant politique, son engagement politique en faveur des enfants, sa vie dans le monde du cinéma, comme si de rien n'était. Je disparaissais, et avec moi disparaissait le risque d'être attrapé un jour par cette sale histoire. Dommage pour lui, un jour, à la sortie d'une fête, j'ai recroisé Christelle Barras, qui m'a ensuite rappelé pour le casting de Naissance des pieuvres, et je suis revenue. Fragile, mais je suis revenue. À partir de ce moment-là, et en grande partie, grâce à la rencontre de Céline, qui est la rencontre majeure de ma vie et de ma carrière, et aiguisée par un désir de revanche, je suis devenue une lame. Je n'ai fait que devenir plus puissante, jusqu'à devenir ce que je suis aujourd'hui. Je parle de statut social. Je suis puissante aujourd'hui socialement, et Christophe n'a fait que s'amoindrir. Mais cette inversion du rapport de force présent en elle-même n'est pas suffisante pour lutter contre le rapport de force imprimé depuis la jeune adolescence. Malgré cela, j'ai continué encore à avoir peur. Concrètement, ça signifie le cœur qui bat vite, les mains qui suent, les pensées qui se brouillent. Peur notamment les rares fois où j'ai été mise depuis en présence de Christophe. Pour te dire autre chose, ce que tu as vécu comme du silence pendant 18 ans, je l'ai traversé comme un bâillonnement, entouré de beaucoup de fausses vérités arrangeantes pour tout le monde. Pour te dire par exemple, très souvent, je me suis retrouvée face à des gens, même des gens que j'aime beaucoup, qui sans que je leur parle de quoi que ce soit concernant cette histoire, me disaient « Non mais Christophe, c'est quelqu'un de bien ». Je veux dire, d'après ce que je te raconte en partie dans ce mail, tu peux te douter que quelqu'un de bien ne recouvre pas tout à fait le cas de Christophe. Je dirais encore une chose, les dernières raisons qui m'ont fait prendre la décision de parler, ce sont un documentaire sur Michael Jackson qui s'appelle Living Neverland, que je te recommande de voir, et le fait que j'ai appris par hasard qu'il relançait un casting pour un nouveau film dont les personnages centraux s'appellent Chloé et Joseph, comme dans Les Diables. C'est peut-être un détail pour toi, mais pour moi c'est énorme, ça veut dire qu'il nie complètement mon histoire. Si j'en parle à Mediapart, après avoir envisagé d'autres possibilités, c'est parce que la journaliste va mener une enquête de fond. Tu sembles penser que je cherche à me faire mousser avec ces révélations, ou que je cherche à ramener ma psychanalyse sur la place publique. Tu es à côté de l'enjeu. Si j'en parle, ce n'est pas pour brûler Christophe. C'est pour remettre le monde dans le bon sens, lui qui est sans dessus-dessous de mensonges. Si j'en parle, c'est pour que les bourreaux cessent de se pavaner et qu'ils regardent les choses en face. Si j'en parle, c'est pour que la honte change de camp. Si j'en parle, c'est pour que cette exploitation de futurs enfants, de femmes, cesse, pour qu'il n'y ait plus la possibilité de double discours. Tu me parles de pardon, mais laisse-moi te demander. Quelqu'un a-t-il demandé pardon? Pardon pourquoi? D'ailleurs, je comprends ta décision de ne pas parler, c'est tout à fait ton droit. Je pense quant à moi que si nous faisons les choses ensemble, nous pouvons faire quelque chose de très beau qui consisterait à regarder en face notre passé, qui a bien failli me détruire et probablement nous détruire, et en faire un geste d'amour. Pardonner Christophe n'est pas mon souci principal, de toute façon, il n'y a que lui-même qui puisse se pardonner. Mon souci principal, c'est de vivre ma vie le plus en vie possible, avec autour de moi ma famille et les gens que j'aime, qui sont eux-mêmes les plus vivants possibles. Voilà. Et je dois dire que, comme je vous dis, la parole est bénéfique, parce que, comme vous le savez, mon père parle dans l'article, et il a tout à fait changé de point de vue, ce qui semblait absolument inenvisageable. Voilà.
Merci.
Merci à vous.
Parce que, pas seulement pour tout ce que vous avez dit ce soir, mais le combat. Le combat libère les autres. Et ce que vous avez fait, qui ne manque pas de courage et de force, c'est aussi un combat pour émanciper d'autres, et notamment les hommes.
Voilà. J'espère.
Oui, il faut espérer. Et les combats, ils sont toujours à mener, ils sont sans fin. Merci Adèle Haenel,
merci
de votre témoignage.
Merci.
On va vous entendre, justement à La Roche-sur-Yon, avant de recevoir une universitaire, une chercheuse, Iris Bray, pour, au-delà de ce que, de votre témoignage, de votre histoire, parler de ce qu'elle dit, au fond, c'est-à-dire des violences sexuelles dans le cinéma. Merci et bon combat, et continuez la lutte.
Ouais. Ça, c'est sûr.
D'ailleurs, je me permets de faire une petite incartade à ce sujet, car j'étais un peu vexée en voyant dans la programmation, nous avons eu l'occasion d'en parler avec Paolo, que le film de Roman Polanski était projeté. Et je pense que dans le contexte actuel, ce serait pas mal d'encadrer ce film d'un débat sur qu'est-ce que c'est que la différence entre un homme et un artiste et sur la violence faite aux femmes. Et ça, je trouve que ça, vraiment, c'est un truc à prendre au sérieux. Je pense qu'en France, particulièrement, c'est pas forcément le cas dans les cultures anglo-saxonnes. En France, dans les pays latins, etc., on met tout ça sous le coup de la liberté de création de l'artiste. Et je pense qu'il est vraiment, vraiment souhaitable pour tout le monde qu'on questionne aussi ça. Et c'est une question complexe et qui nous aide à être... Je tremble parce que je suis un peu émue, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Merci. En fait, on a besoin de ne pas le recouvrir de « non, mais ça, c'est la liberté de création ». Non, attendez, là, on parle de « on est dans une structure » ou alors on est tous plus ou moins informés maintenant de ce que ça signifie la culture du viol, c'est-à-dire quand même, on parle d'une femme sur cinq hein, qui est concernée directement par la question du viol, donc on peut en parler de manière structurelle, et c'est trouver au moins d'ouvrir le débat pour que ça change, parce que c'est un fait social, ce n'est pas naturel. Donc voilà ce que je me permets de dire, et j'aurais...
Nous sommes toujours à Mediapart, en direct de la rédaction de Mediapart, pour ce Mediapart live exceptionnel, déclenché par l'exceptionnelle enquête de Marine Turki, elle-même déclenchée par l'exceptionnel et courageux témoignage de Adèle Haenel sur les violences sexuelles au cinéma, où règne notamment dans le cinéma français une grande omerta et qui s'ajoute à l'alibi classique de la création et de ses transgressions. Pour poursuivre, nous allons discuter de ça avec Iris Bray. Iris Bray, bonjour, bonsoir. Vous êtes franco-américaine, spécialiste de la question du genre et de ses représentations. Votre livre aux éditions du Seuil, c'est sur les séries, Sex and the Series, et il y en a un prochain qui va paraître bientôt, toujours aux éditions du Seuil, qui est sous nos yeux. Oui, j'ai dit édition de l'Olivier, parce qu'elles sont liées aux éditions du Seuil,
oui,
c'est d'où mon lapsus, oui. C'est les éditions de l'Olivier, donc celles qui viennent de remporter le prix Goncourt, au passage. Aujourd'hui même, sous nos yeux, le regard féminin à l'écran. En introduction, on avait justement cette déclaration en transition, je dirais, de Adèle Haenel au Festival de La Roche-sur-Yon, parce qu'on a eu envie de vous inviter, parce que justement, à La Roche-sur-Yon, il y avait en avant-première le film de Roman Polanski, et les programmateurs ont accepté, ils ont eu, je dirais, l'intelligence d'accepter cette idée d'un débat, en fait presque d'une conférence qu'on peut trouver d'ailleurs en ligne, de vous autour de tout ça. Ma première question, Iris Bray, on va mener cette conversation, Marine Turki et moi, avec vous. Vous avez écouté tout ce que nous a dit et tout ce chemin qu'on a vu devant nous. On a vu un immense chemin se faire devant nous avec Adèle Haenel. Y a-t-il finalement politiquement un moment Adèle Haenel désormais dans le cinéma français?
Oui, je le pense. Je pense qu'on vient d'assister à quelque chose de très important, parce que jusqu'à maintenant, en France, on n'a pas vraiment voulu avoir ces conversations post-MeToo, on n'a pas vraiment voulu avoir notre Weinstein, on a voulu protéger les artistes, on a voulu protéger le cinéma, et en pensant qu'on protégeait ces hommes et ces œuvres, on a oublié d'écouter. Et là, ce qui se passe avec Adèle Haenel, c'est qu'on l'entend, et on l'entend très clairement. Et je pense que son témoignage est aussi important parce qu'elle parle de son expérience personnelle, mais qu'elle la place dans un système et qu'elle nous montre comment un système est mis en place pour que les victimes ou les survivantes ne puissent pas être entendues. Et je pense que ça, c'est très difficile à entendre... En France, il y a une culture du viol à la française, hein, c'est Valérie Ray-Robert qui a écrit un livre là-dessus. On est coincé dans des concepts comme la galanterie, comme l'artiste qui serait amoureux de sa muse, dans des rapports en fait qui sont basés tout simplement sur une asymétrie de pouvoir. Et notre érotisme à la française se base sur cette idée de domination masculine. Or, réfléchir à MeToo et réfléchir aux violences qui sont faites aux femmes, mais aussi à nos représentations, c'est d'abord interroger la manière dont notre désir se construit. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué et d'extrêmement intime. Or, tout le monde dit que ce sont les États-Unis, les puritains, mais finalement, en France, on est bien plus puritain que ça, puisqu'on a beaucoup de mal à réfléchir à la manière dont nos imaginaires et nos imaginaires érotiques existent et quel est le désir qui se cache derrière la protection de ces hommes artistes. Qu'est-ce que ça raconte sur notre société ?
À La Roche-sur-Yon, vous avez expliqué que par rapport au cas Polanski et par rapport aux polémiques, y compris à Mediapart, puisque nous avions invité le responsable de la Cinémathèque française, Frédéric Bonneau, dans tout ce moment, vous êtes des censeurs, la création, vous voulez tuer un artiste pour des faits si anciens, etc. Et dans votre exposé, vous aviez très subtilement expliqué cela, en reprenant d'ailleurs ce qui a déclenché le témoignage d'Adèle Haenel, en disant, il ne s'agit pas de censurer. Vous pouvez avoir envie de danser sur la musique de Michael Jackson. Mais moi, vous disiez-vous, je ne peux pas, je ne peux plus. Je vous laisse libre de le faire, mais je ne peux plus parce que je vois, et vous décriviez très crûment, très précisément, les faits établis par l'enquête, les faits de pédocriminalité commis par Michael Jackson.
En fait, il y a deux choses. Quand on invoque la censure, de quelle censure parlons-nous ? Ouais. De quels hommes, en fait, on parle de censure, mais en mettant en avant ces hommes-là, on censure la parole de beaucoup de femmes et de beaucoup de récits. Quels sont les récits qui arrivent jusqu'à nous ?
Mais d'abord, c'est la grande censure
ça, c'est
invoquée,
la grande censure.
Elle est faite pour la prétendue
taire.
Censure, pour taire
Exactement.
L'autre censure.
Donc déjà, quels sont les récits, quelles sont les images que l'on voit ? Et c'est vrai que moi, je me suis penchée dans les affaires, pour Michael Jackson, mais aussi pour Polanski, d'essayer d'écouter la parole des victimes. Et ce qui est intéressant, c'est que ces récits-là sont difficilement trouvables. Ce n'est pas des choses qui sont faciles à trouver. Quand on lit le récit de Samantha Gemmer, qui a 13 ans,
Qui est la victime de Polanski.
Qui est la victime de Polanski, une des victimes, puisqu'il y en a quatre aujourd'hui. Laure Murat, dans son livre sur la révolution sexuelle après Weinstein, d'ailleurs dit qu'il y a eu 6 plaintes après l'affaire Weinstein. Donc on est quand même à 10 femmes qui ont parlé contre Polanski aujourd'hui. Quand on lit en fait ces témoignages, tout simplement, moi, ces images, elles restent avec moi. C'est-à-dire que quand on évoque le nom de Polanski, je n'ai plus les images de cinéma, je n'ai plus les images des œuvres qui me viennent à l'esprit. J'ai l'image d'une petite fille qui est terrorisée et qui exprime sa peur dans sa déclaration, puisqu'elle fait une déclaration dès le lendemain de ses présumées agressions. Et elle explique les choses très clairement. Elle explique comment il lui demande d'enlever son haut, puis comment elle enlève sa culotte. Et elle explique qu'elle est dans le jacuzzi et qu'elle a tellement peur de lui parce qu'il vient dans le jacuzzi avec elle qu'elle fait semblant d'avoir une crise d'asthme et qu'elle lui demande de la ramener chez elle. Et il refuse. Et elle explique qu'il lui fait un cunnilingus et dans sa déclaration, elle ne connaît même pas le mot. Elle se trompe de mot en anglais parce qu'elle ne sait pas ce qui se passe avec elle. Elle explique la pénétration vaginale, elle explique qu'il lui demande quand est-ce qu'elle va avoir ses règles pour qu'elle ne tombe pas enceinte et qu'elle ne sait pas quand est-ce qu'elle va avoir ses règles et qu'il lui demande de faire un effort. Et comme elle ne se souvient pas, il décide de la pénétrer analement. Moi, je pense en fait à toutes ces images quand on me parle de l'affaire Polanski. Donc quand Catherine Deneuve dit que cette petite fille de 13 ans avait l'air d'être beaucoup plus vieille. De toute façon, qu'elle ait 25 ans ou 13 ans, un viol reste un viol. Quand une femme dit non, c'est un viol. Et qu'elle est pénétrée, c'est un viol. Donc, mais je suis désolée, allez regarder les photos de cette jeune fille à 13 ans. Elle n'a pas l'air d'avoir 25 ans. Donc dans ce discours français
soutenue par des grands intellectuels, par des grandes figures du cinéma, par des grandes actrices, par d'autres grands réalisateurs, ou des moins grands réalisateurs d'ailleurs, il y a quelque chose là qui nous raconte qu'ils ne vont pas écouter la parole des victimes et qui préfèrent se protéger derrière des images de cinéma que de vraiment entendre ce qu'on leur dit. Donc oui, Michael Jackson, aujourd'hui, j'ai plus envie de danser dessus. C'est une décision personnelle, individuelle, qui concerne chaque personne, mais ça nous parle aussi de manière collective, quels sont les récits qui arrivent jusqu'à nous et comment sont-ils transmis. Et c'est pour ça aussi que là, il y a un moment, Adèle Haenel, c'est que, enfin, ce récit nous arrive, et il nous arrive en plein cœur. Et c'est comme ça aussi qu'on fait changer les choses, parce que ce récit, il est incarné par une femme, par une jeune femme, par une jeune femme politisée, intelligente, qui a eu le temps de pouvoir réfléchir à ce récit, le construire et nous l'offrir. Et maintenant, individuellement, collectivement, nous devons réagir face à ça. On ne peut pas rester à fermer les yeux. Maintenant, il faut qu'on ouvre les yeux.
Ce qui est intéressant, et vous l'avez dit à La Roche-sur-Yon aussi, c'est comment, finalement, on explique et on commente ces œuvres de personnes comme Roman Polanski, par exemple, qui sont accusées de violences sexuelles. C'est-à-dire que son attrait, par exemple, pour les très jeunes femmes, et on pourrait aussi d'ailleurs poser action pour Woody Allen, par exemple, est très rarement évoqué par les critiques de cinéma, par exemple, pour décrypter l'œuvre. Alors que plein d'éléments de leur vie vont être mis en avant pour expliquer d'autres œuvres de ces réalisateurs. Et quand on est sur la question, justement, de ces accusations de violences sexuelles ou de leur attrait pour des très jeunes femmes, comme par hasard, ça passe à l'as, on n'en parle pas. Comment vous expliquez ça? Comment vous analysez ça?
Déjà, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que séparer l'artiste de l'œuvre, c'est une question qu'on réserve qu'aux hommes. C'est-à-dire que quand c'est une femme artiste, quand c'est une femme qui révolutionne la littérature ou le cinéma, là, on parle toujours du privé, on parle toujours de l'intime. Et on trouve ça souvent passionnant. C'est-à-dire que récemment, je réfléchissais à Marguerite Duras et il y avait un livre qui était écrit sur comment la langue vietnamienne avait avait apporté quelque chose à son style. Ben, moi, je trouve ça génial de réfléchir à l'enfance de Marguerite Duras et de savoir comment la langue française est imprégnée du vietnamien. Voilà, on pense à Chantal Akerman, elle révolutionne le cinéma et tout le monde va parler de son orientation sexuelle et ça va poser de problèmes à personne. Mais par contre, quand on en vient aux hommes, là, il faut séparer. Là, on n'a pas le droit de parler d'agression sexuelle, on n'a pas le droit de parler de leur obsession pour le corps des petites filles. Parce que là, il faut les protéger. Donc, il y a déjà une asymétrie entre la manière dont on parle de l'intime et du personnel quand on parle d'hommes artistes ou de femmes artistes. La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi une asymétrie dans la manière dont on traite les agressions qui sont faites aux femmes. Puisque si jamais un de ces grands hommes, un de ces grands artistes tient des propos racistes ou commet un acte raciste,